Donc, comme je le disais, ce message, c'est la deuxième partie d'un message que j'ai déjà commencé. Et je rappelle que dans ce message, le sujet, c'était la fausse assurance du salut. C'est-à-dire qu'on peut penser être sauvé alors qu'on ne l'est pas. Et on a commencé à en parler déjà. Et dans la première partie, nous avons dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent sauvées. Alors, ils prétendent connaître Dieu, mais leurs œuvres renient en fait Dieu. C'est-à-dire qu'ils renient Dieu par leurs œuvres. Ou ils ne produisent pas les œuvres de la foi. Lorsqu'on est sauvé, normalement, on produit les œuvres de la foi. Au lieu de cela, ces personnes produisent plutôt les œuvres de la chair dont parle la Bible. C'est-à-dire que finalement, ces personnes se disent sauvées alors que rien n'a changé dans leur comportement. Normalement, quand on est sauvé, il y a un changement de comportement. On a dit que parfois des gens font ce qu'on appelle une expérience de la conversion sans la conversion elle-même. C'est-à-dire que juste une expérience émotionnelle et sans vraiment faire la conversion en elle-même. Il y a même des personnes qui connaissent très bien la parole de Dieu, qui la citent régulièrement, et pourtant ils ne la mettent pas en pratique. Et nous sommes appuyés sur un verset de la lettre de l'apôtre Jacques. Chapitre 1, il s'agit du verset 22 qui dit, Jacques nous exhorte en disant, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est sur ces faux raisonnements que nous sommes un peu attardés. Nous avons vu je vous en ai proposé quatre. Quatre faux raisonnements qu'on peut faire. Nous avons déjà parlé de trois faux raisonnements. Le premier, c'est de se dire, je suis chrétien. Je crois en Jésus, donc je suis sauvé. Et on a vu qu'en fait, croire en Jésus, ça implique beaucoup plus de choses que certains pensent et que le mot croire peut être un peu galvaudé. Le deuxième faux raisonnement que certains font, c'est je suis baptisé, donc je suis sauvé. Et on a vu que la Bible nous le montre même que le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je suis sauvé. Troisième faux raisonnement que les gens font, c'est j'appartiens à une communauté chrétienne, j'appartiens à une église, je fais partie d'une assemblée chrétienne, donc je suis sauvé. Et pourtant, ce n'est pas ça qui sauve. Et c'est ce troisième faux raisonnement, je vais continuer ce matin avant d'arriver au quatrième. Et il me tient particulièrement à cœur. Pour la simple et bonne raison que personnellement, j'ai fréquenté cette église à son début, pendant à peu près 3 ans sans être sauvé. C'est-à-dire qu'on peut très bien appartenir à une assemblée sans être sauvé. Et je sais ce que c'est. Tant qu'on n'a pas fait la vraie démarche de la conversion, on peut fréquenter une église sans être sauvé. Et pour moi, c'est un sujet grave parce qu'on peut se leurrer pendant des années et ne pas être sauvé. Jésus dit dans Jean chapitre 15, versets 1, 2 et 6, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus dit, le sarment, il est en moi. Et pourtant, il sera jeté. Il est dans l'assemblée. Il fait partie de l'assemblée. Mais il sera jeté. Il ne suffit pas d'être dans l'assemblée. On sera jeté si on n'est pas vraiment si on n'est pas un vrai disciple. On sera brûlé au feu, dit Jésus. On peut se poser une question, est-ce que ce cas est rare? Est-ce qu'il y a juste quelques personnes comme ça qui peuvent se trouver dans des assemblées sans être sauvées? Nous allons voir ce que Jésus nous enseigne sur le sujet. Si nous allons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, j'aimerais vous lire les versets 22 à 28. Il nous est dit que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ce passage, il est lourd de sens, il est grave. Et Jésus dit, la question que lui a posée, c'est est-ce qu'il n'y a que peu de gens qui sont sauvés? Et il dit, entrez par la porte étroite. On voit bien que ce n'est pas une grande porte. Ce n'est pas des foules qui entrent dans cette porte-là. Il y a très peu de gens qui entrent dans la porte du salut. Et les gens diront, oui, mais nous avons mangé avec toi. Ça veut dire quoi? Nous avons pris la Sainte Cène avec toi. Tu as enseigné dans nos rues. Tu nous as enseigné pendant des prédications dans les églises. C'est ça ce que ça veut dire. Et Jésus dira, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas d'où vous êtes. Et il va aller... On retrouve toujours cette notion de personnes qui sont quand même dans l'assemblée, mais que Jésus ne connaît pas. Dans Matthieu chapitre 22, versets 1 et 2, et j'aimerais vous lire aussi le verset 11 à 14, où il est dit, « Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Et le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » C'est toujours la même chose que Jésus dit, beaucoup d'appelés. Il y a une foule qui le suit, mais il y a très peu d'élus. Ce qu'il faut, c'est avoir l'habit de noces. Sinon, on sera jeté dehors. Et il rappelle cette notion-là de pleurs et de grincements de dents, parce que les gens auront pensé qu'ils étaient dans la bonne voie, et là, il va y avoir des pleurs. Ce qu'il faut, c'est avoir l'habit de noces, c'est-à-dire l'habit du salut. Il y a un passage étonnant que j'aimerais vous relater aussi, où Jésus tient un propos bizarre, étrange, que nous trouvons dans Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Il s'agit d'une femme malade qui cherche la guérison. Et ce passage nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi il l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ce qui est étrange dans ce passage, c'est que Jésus est dans une foule, vous imaginez, donc pressé de partout. Tout le monde voulait le toucher, tout le monde. Et Jésus dit, il y a une personne qui m'a touché. Ça veut dire que dans l'assemblée, on peut être nombreux à le suivre. Des foules suivent Jésus. Mais il n'y a que quelques personnes qui le touchent vraiment, avec leur cœur. C'est ça. On peut être nombreux. Donc les gens, Pierre et les apôtres se disent, mais comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Ben oui, parce que tout le monde ne me touche pas comme je veux, en fait, répond Jésus. On peut être nombreux, une foule qui me suit, mais il y a très peu de gens, en fait, qui le touchent réellement avec leur cœur. C'est ce que Jésus veut signifier dans ce passage-là. Et cette notion d'une infime partie vraiment qui touche Jésus nous est aussi confirmée par l'apôtre Paul. Quand il écrit aux Corinthiens dans sa première lettre, au chapitre 10, versets 1 à 6, il rappelle ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte. Et Paul dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voilà, Paul dit, l'exemple d'Israël, nous devons le prendre pour nous. Ils étaient tous ensemble, tous à tout faire ensemble, tous à manger, tous à suivre, à passer dans la mer, à voir les miracles de Dieu. Et pourtant, très peu, la plupart sont morts, la plupart ont été rejetés par Dieu. Et Paul nous dit, prenez ça comme exemple. Voilà donc ce faux raisonnement qu'on peut faire, je suis dans une assemblée, donc je suis sauvé. Et le dernier que j'aimerais vous proposer comme faux raisonnement, c'est que ce sont les dons spirituels. Je pratique les dons spirituels, j'ai les dons spirituels, j'ai les dons de l'esprit. La puissance de l'esprit se voit, enfin, je peux développer cette puissance de l'esprit pour guérir des malades, etc. Dieu fait grâce et il fait miséricorde, on peut voir des choses extraordinaires avec les dons de l'esprit. C'est important, Dieu a donné les dons de l'esprit à l'Église, aux membres de l'Église, pour l'avancement de l'Église. Mais Jésus va nous dire quelque chose par rapport à ça dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. C'est un passage, moi, personnellement, qui me touche beaucoup. Et il faut que chacun fasse attention à ce passage. Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça, c'est aussi extraordinaire quand Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu. » Il ne dit pas « Je ne vous connais plus. » Il dit « Je ne sais pas d'où vous êtes. » On l'a lu tout à l'heure. « Je ne vous ai jamais connu. » C'est ça qui est important, ce qui est surprenant, mais c'est ça. Jésus dit « Vous n'avez jamais été sauvé. Vous n'avez jamais eu mon esprit en moi, en vous. » Je ne vous ai jamais connu. On n'a jamais rien eu ensemble. Même si vous avez pratiqué, montré la puissance de l'esprit aux gens. Les dons de l'esprit, je prophétise, je fais des miracles, je guéris des malades. Mais Jésus dit, ce n'est pas ça qui sauve. Et il y a même un exemple que nous avons dans les Écritures, où Jésus, en fait, investit ses disciples de sa puissance pour aller annoncer l'évangile avec des signes et des miracles. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 10. J'aimerais vous lire les versets 17 et 20, où en fait ces disciples qui ont reçu la puissance de l'Esprit reviennent pour témoigner à Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Qu'est-ce que Jésus répond ?« Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » L'important c'est ça, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et pas parce que je montre la puissance de l'esprit, parce que j'ai les dons de l'esprit. Et beaucoup de gens font ce faux raisonnement en disant, moi, de toute façon, je prophétise dans l'église, donc je suis sauvé. Mais Jésus dit non, c'est pas ça qui compte. Il faut s'assurer que son nom est inscrit dans le livre de vie. Cette notion tient tellement à cœur au Seigneur que dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il va revenir sur la même question. Apocalypse chapitre 3, versets 13 à 18, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable et fidèle, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Nous voyons, en fait, ici, il y a trois catégories de personnes. Il y a celui qui est bouillant. Il est sauvé, il le sait, il œuvre pour le Seigneur, il est bouillant. Il y a celui qui est froid. Il n'est pas sauvé, il le sait, mais il a des chances de se convertir un jour, parce qu'il sait qu'il n'est pas sauvé. Donc, il y a une situation qui est terrible, c'est celui qui est tiède. Et Jésus dit même, il emploie un mot assez fort, « je le vomirai de ma bouche ». C'est-à-dire qu'il était déjà en moi, il était dans l'assemblée, mais je le vomirai. C'est terrible comme expression. Pour moi, c'est la pire des situations, parce que c'est celui qui risque de ne pas se convertir, parce qu'il se croit déjà converti. C'est un peu comme un malade qui ne sait pas qu'il est malade, il ne peut pas être guéri. Quand je suis malade, que je le sais, je peux aller voir le médecin, mais quand je suis convaincu de ne pas être malade, aucune chance de guérir. Et pour moi, c'est la pire des situations. Parce que la parole dit, il se croit sauvé, il se croit riche, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de salut. Il a déjà tout. Alors qu'il est tiède, alors qu'il sera vomi. Il n'a pas les vêtements blancs du salut. C'est les vêtements de noces dont nous avons parlé tout à l'heure. Quelqu'un me dira, mais la peinture que je vous fais ce matin est bien sombre. C'est désagréable. C'est même effrayant ce que je vous dis. Mais c'est la Bible. Il faut que nous prêchions toute la Bible. Ce qui nous est demandé, c'est de nous examiner pour savoir où on en est. C'est ça qui est important. Nous sommes invités à nous examiner. Et l'apôtre Paul le dit clairement. Et quand il écrit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, chapitre 13, verset 5, il nous dit bien, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Voilà ce que nous dit la parole. Nous sommes invités vraiment à nous examiner pour savoir où on en est. Et moi, ce que je vous propose ce matin, c'est un petit questionnaire pour que chacun puisse s'examiner avec des questions simples pour savoir si vraiment ma foi, elle est authentique, si elle est véritable. Voici juste quelques questions que chacun peut se poser. Ai-je soif de la parole du Seigneur au point de méditer la Bible régulièrement? Parce que quand je suis sauvé, que l'Esprit de Dieu en moi, il me donne soif de cette parole. Est-ce que j'ai cette soif pour méditer la parole? Et d'ailleurs, lorsque je lis la Bible, est-ce qu'elle me parle? Est-ce que je sens qu'il y a Dieu qui me parle à travers cette parole? Il y a un passage de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, qui dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on peut en juger. » C'est-à-dire que si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, il y a des choses que je n'arrive pas à juger dans la Bible. La Bible ne me parle pas. Je trouve que c'est une pure folie, la Bible. Est-ce que la Bible me parle d'une façon particulière? C'est une question que je peux me poser. Ou est-ce que je suis resté un homme naturel qui prend la Bible pour une folie? Et puis d'autres questions. Ai-je le désir constant de parler à mon tendre Père dans la prière? Si Dieu est devenu mon Père, j'ai ce désir de lui parler. Et donc j'aime prier. Mon amour pour lui me pousse-t-il à parler de lui autour de moi? Quand on est amoureux de quelqu'un, je ne sais pas si tout le monde a déjà été amoureux, mais on a envie, quand on est amoureux de quelqu'un, on a envie de parler de lui autour de soi. Et c'est ça, si j'aime Dieu, j'ai envie de parler de lui. Ai-je la compassion des âmes? Ai-je la compassion pour les âmes perdues? C'est-à-dire que, est-ce que j'ai tendance à leur parler de ce salut, à les inviter à la vie? Et surtout, est-ce que j'intercède pour les gens autour de moi parce que je vois qu'ils sont perdus pour l'éternité? Quand on est sauvé, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, cet Esprit nous pousse à aimer les âmes perdues. Est-ce que j'ai la même chose en moi? Est-ce que j'ai l'amour de la vérité? La vérité, là j'ai dit la vérité avec un grand V. Est-ce que je suis prêt à entendre la vérité? Est-ce que je recherche la vérité ou seulement des choses agréables à mes oreilles? Ai-je le désir ardent de porter le bon fruit du salut? Ai-je horreur du péché? Est-ce que je persévère dans l'Évangile? Est-ce que je veux me charger de ma croix et suivre Jésus chaque jour? Ai-je la volonté ferme de marcher dans l'obéissance au Seigneur? Ai-je le profond désir de me soumettre à Christ? Nous avons vu dans le message sur la sanctification cette notion de soumission à Christ qui nous dit, par exemple, on a vu cet exemple très simple et concret, est-ce que j'ai envie de me soumettre aux autorités civiles et que le code de la route, pour moi, c'est tout à fait naturel de respecter le code de la route parce que l'Esprit de Dieu me le dit. Voilà, c'est un exemple une question qu'on peut se poser. Ai-je la paix et la joie au plus profond de mon cœur? C'est-à-dire que même dans les épreuves, est-ce que l'Esprit de Dieu me donne cette paix et cette joie? Et en m'appuyant sur Romains chapitre 8, verset 16, je peux aussi me poser une question. L'Esprit lui-même rend-il témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'ai ce témoignage intérieur? Voilà, que je suis enfant de Dieu. Si ma réponse à ces questions est oui, gloire au Seigneur, c'est vraiment que j'ai le salut avec les garanties qui vont avec. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cela et lui être reconnaissant. En revanche, si ma réponse est non, il est nécessaire que je m'humilie devant le Seigneur. Il faut passer par de l'humilité. Parce que le Seigneur fait une promesse dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est une promesse que le Seigneur fait. Il faut être humble devant lui, s'humilier devant lui et prier. Dans la prière, demander son secours. J'aime beaucoup le roi David, ce grand ami de Dieu, qui était proche de Dieu. Il a fait une prière dans le psaume 139 que nous pouvons nous approprier. Versets 23 et 24. David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est une question que tout le monde peut se poser. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Parce que parfois, on peut penser être sur la bonne voie. Enfin, oui, sur la bonne voie, mais en fait, je suis une mauvaise. Et David dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Peut-être que je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une prière que nous pouvons tous faire, un jour ou l'autre, pour vraiment nous assurer, que le Seigneur nous rassure et nous dise, voilà, ça, c'est la bonne voie. Voilà, et j'aimerais conclure en insistant sur cet examen de soi. La question, elle est là, en fait. M'examiner et m'assurer que je produis vraiment les œuvres de la foi, que j'ai le fruit de l'esprit dont on a parlé la dernière fois, et que surtout, il y a eu ce changement de nature en moi. Quand on est sauvé, il y a un changement de nature qui se produit. Et sinon, il faut passer par de la repentance, une repentance sincère. Et ce sera l'objet de notre prochain message, la repentance. Qu'est-ce que c'est vraiment la repentance sincère? Et prier avec honnêteté devant Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Il faut prier devant Dieu avec sincérité. Il est écrit, l'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de la sincérité. Si je sens que je n'ai pas son esprit, sincèrement, je lui dis. Et je passe par la repentance pour qu'il m'accorde le salut véritable. Et il offre le salut gratuitement. Nous savons que c'est une grâce. Et il suffit de venir avec sincérité, avec humilité devant lui. Et surtout, quand il donne le salut, il donne des garanties claires. Et on les a vues pendant le message sur l'assurance du salut. Il y a des garanties claires. On doit être sûr d'avoir ces garanties, notamment un changement incontestable de nature. On doit changer lorsqu'on est sauvé. Et même si les passages que j'ai cités sont durs et difficiles à entendre, n'oublions pas que le Seigneur est bon. Et qu'il est miséricordieux. Et Jésus va faire une promesse. Et je terminerai là-dessus. Ce sera la fin, le dernier verset que j'aimerais vous donner. Cette église à laquelle il reproche parfois des personnes tièdes, l'église de Laodicée, le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa bonté, fait quand même une promesse extraordinaire. Et cette promesse, souvent, elle est utilisée pendant les campagnes d'évangélisation pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais en fait, c'était d'abord fait à l'Église. Vous connaissez peut-être Apocalypse chapitre 3, versets 19 et 20. C'est vraiment, le Seigneur s'adresse à des gens qui sont dans l'Église, d'abord. Et j'aimerais vous laisser ce verset pour terminer. C'est Jésus qui dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » C'est la repentance. « Voici, je me tiens à la porte. » Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen.